Voilà, on est là. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Alors, je suis ravi de recevoir l'écrivain Amin Maalouf suite à l'apparition de son livre chez Grasset, Le dérèglement du monde, et pas uniquement pour son livre, mais je dirais bien pour toute son œuvre. Tant Amin Maalouf est un adepte des lumières, je dirais que quand on lit ses livres, eh bien, c'est des véritables lumières qui nous éclairent, et certainement avec son nouvel essai dans l'obscurité du monde d'aujourd'hui, eh bien, ça fait du bien, même si les choses sont parfois noires, de savoir qu'il y a des lumières comme ça qui nous éclairent avec simplicité, avec beaucoup d'humanisme. Alors Amin Maalouf, bienvenue parmi nous aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Alors, pour débuter cette rencontre, j'ai envie de vous demander si l'écriture, qu'elle soit à travers vos romans, vos essais, ou bien vos livrets d'opéra, vous en avez écrit deux à ce jour, également, je dirais peut-être, le livre de cuisine que vous avez réalisé en compagnie de votre épouse.
Non, c'est elle. Moi, j'ai juste écrit la préface et j'ai servi de cobaye pour les plats, et ce qui était l'aspect le plus agréable de la chose.
Alors justement, votre écriture, quelle qu'elle soit, est-ce que c'est pour donner justement du sens aux choses, au monde, à la vie, à votre vie, à notre vie?
Vaste question. C'est vrai que l'écriture a diverses fonctions. Et moi, j'écris des choses assez différentes parce qu'elles ont des fonctions différentes. Je pense que un roman a pour fonction de créer des mythes, ce que j'appelle entre guillemets des mythes positifs, pour réimaginer le monde autrement. Un essai, c'est quelque chose de différent. Et je dirais que je pratique l'essai avec plus de manière plus espacée, puisque j'en ai écrit 2 à 10 ou 11 ans d'intervalle. L'essai a surtout pour fonction de formuler une réflexion sur le monde. Le roman agit par parabole, par métaphore. L'essai a pour fonction de dire les choses d'une manière plus précise, de formuler un certain nombre d'idées, et en réalité, un romancier est parfois tenté d'utiliser ses personnages comme des porte-paroles, et de mon point de vue, ce n'est pas très sain. Et donc, quand il a quelque chose à dire, je pense qu'il a intérêt à le dire pour l'essentiel à travers un essai, c'est-à-dire directement lui-même par sa propre voix, et éventuellement il y a des échos de ce qu'il dit dans ce que disent les personnages. Moi, j'ai écrit mon précédent essai, c'était Les identités meurtrières, et c'est vrai que ce qu'on trouve dans cet essai, on le trouve dans divers romans que j'ai écrits avant, après, et je dirais la même chose du dérèglement du monde. Je pense que il y a des échos de ce livre dans des romans passés et peut-être des romans à venir.
Alors c'est vrai, les identités meurtrières, écrit il y a 11 ans, celui-ci finalement s'inscrit sur le même chemin, la compréhension du monde d'aujourd'hui. Alors le titre est au singulier, le dérèglement du monde, alors qu'on pourrait penser au départ qu'il devrait plutôt se décliner au pluriel, parce qu'il y a plusieurs dérèglements, que ce soit le dérèglement économique, climatique, géopolitique et d'autres. Mais c'est vrai que quand on vous a lu, Amin Maalouf, on se rend compte que le singulier était nécessaire et s'imposait, puisque finalement aujourd'hui il faut arrêter de voir les choses de façon spécifique, mais il faut plutôt réfléchir de façon globale.
Je pense justement que le singulier ici reflète le lien entre tous ces dérèglements en réalité. Je dirais que mon essai précédent, Les identités meurtrières, insistait sur un dérèglement en réalité, c'est-à-dire sur le déchaînement des affirmations identitaires, et ce déchaînement qui rend plus difficile le débat démocratique, qui rend plus difficile la coexistence harmonieuse au sein de toutes les sociétés. Et à partir de cette réflexion, je dirais que je l'ai un peu élargi, en me disant « mais ce n'est pas la seule chose qui ne va pas ». Et en réalité, ce dérèglement lié aux identités fait partie d'un dérèglement plus vaste, qui a d'autres aspects. Il y a un dérèglement intellectuel, il y a un dérèglement stratégique, géopolitique, il y a un dérèglement climatique, dont je ne parlerai pas s'il n'était pas lié à l'activité humaine et à notre pratique de l'irresponsabilité dans nos comportements. Et plus généralement, il y a un dérèglement lié à notre gestion des affaires de la planète. Nous sommes arrivés à un niveau de développement, d'évolution, ce qui en soi est une bonne chose. Je suis, comme vous l'avez rappelé, un homme de progrès, un homme des Lumières. Je ne suis certainement pas un passéiste. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent « Ouh là là, où sommes-nous allés? Il faudrait revenir en arrière vers les vraies valeurs. » Pas du tout. Je me dis « C'est parfait que nous soyons allés aussi loin. Les progrès de la science, les progrès de la technologie, tout ce que cela nous a apporté et qui a complètement bouleversé notre vie, c'est merveilleux. Sauf que nous n'avons pas vraiment encore appris le mode d'emploi. Nous n'avons pas vraiment encore élevé nos mentalités au niveau de ce qu'exige le monde d'aujourd'hui. Nous devons apprendre à gérer la coexistence, par exemple, et il est clair que nous n'arrivons pas encore à le faire. Nous devons apprendre à gérer le progrès qui s'accélère. Un exemple parmi beaucoup d'autres, nous avons tous assisté ces dernières années au développement de pays du tiers-monde, ou maintenant on dit de l'ancien tiers-monde, la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres. Et pour moi qui viens d'un pays du Sud, c'est fascinant. Je trouve qu'on a tous rêvé de voir le tiers-monde sortir du sous-développement. Aujourd'hui, il est en train d'en sortir. Beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Moi, je ne pensais pas le voir de mon vivant. Et c'est merveilleux. Et en même temps, on se dit, oui, nous avons des centaines de milliers de millions de personnes qui entrent dans un nouveau type de consommation, qui vont avoir besoin d'automobiles, de frigos, de toutes sortes de choses, ce qui est strictement leur droit. Et est-ce que le monde peut aujourd'hui gérer la multiplication du nombre d'automobiles par 2 ou par 3 ou par 4, est-ce que le monde peut gérer? Et il n'y a pas de solution simple, parce que, évidemment, on ne peut pas leur demander de ne pas avoir ce qui est parfaitement leur droit. Il est difficile également de demander aux Américains, par exemple, de consommer moins, de réduire, de changer leur mode de vie. Nous ne savons pas encore gérer cela, et cela peut perturber la planète, et notamment à cause des émissions de carbone, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi des problèmes de pénurie, notamment de pénurie d'eau, qui vont se poser un peu partout, et aussi de toutes les matières premières. Donc, nous devons apprendre à gérer cela. Nous ne savons pas encore gérer le monde d'après la guerre froide. Nous avions un système de relations internationales. Je n'ai pas de nostalgie par rapport à ce système qui était caractérisé par l'opposition entre deux blocs. Et aujourd'hui, nous avons une absence de système en réalité. Et nous avons un pays qui se trouve en position, je dis dans le livre, entre guillemets, de suzerain planétaire. Lorsque ce pays élit un président qui nous déplaît, nous sommes furieux, mais nous n'y pouvons rien. Quand il élit quelqu'un qui, à mes yeux, représente quelque chose de positif, d'encourageant, je me dis tant mieux, mais je n'y peux rien non plus. Nous avons une situation qui n'est pas facile à gérer, celle d'un pays qui joue un rôle énorme dans le monde, et ce rôle n'est pas accepté par tout le monde. Donc Bon, ça c'est un des aspects.
Et ça, c'est la question finalement cruciale qui est dans le dérèglement du monde, qui est la légitimité du pouvoir. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, aujourd'hui, ce qui est en cause également, c'est le fossé qui se creuse entre notre évolution matérielle très rapide, finalement, et notre lente évolution morale, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une situation, l'humanité, en tout cas, est confrontée à des périls sans équivalent dans l'histoire par le passé. Donc c'est pour ça que vous expliquez dans votre réflexion qu'il ne faut pas retrouver des repères, mais il faut les inventer.
Nous avons besoin d'inventer. Ma réflexion, en fait, est partie de la chute du mur de Berlin, parce que souvent, j'y reviens. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait un système à l'Est qui manifestement ne fonctionnait plus, qui était en train de faire faillite économiquement, politiquement et autres. Et il y avait à l'Ouest un système qui avait beaucoup évolué. Il y avait un système capitaliste qui avait introduit une dimension sociale de plus en plus importante, qui avait des préoccupations liées en fait à la compétition entre les deux systèmes qui obligeait le système occidental à s'amender. Et en réalité, on a tiré les mauvaises conclusions de la chute du mur de Berlin. Au moment même où l'autre système s'écroulait, se développait en Occident ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, Reagan, Thatcher et compagnie, qui ont dit en réalité, ce n'est plus la peine aujourd'hui de continuer avec le capitalisme social que nous avions développé face au communisme, maintenant nous pouvons y aller jusqu'au bout. Et donc, on ne va plus respecter les principes d'égalité, le welfare state, etc. Tout cela, on va s'en débarrasser, on n'en a plus besoin, il n'y a plus les communistes en face. Et on est arrivé dans un mur, comme on le voit aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant ? Non. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'inventer quelque chose d'autre qui ne soit pas le dirigisme, qui ne soit pas le capitalisme sauvage. Quoi ? Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. On a besoin d'inventer. Bon, aujourd'hui, on va commencer à faire des réunions pour imaginer ce que va être le système. Ça prendra du temps, mais on a besoin d'inventer. Et plus généralement, je pense qu'il est important de se dire ce que connaît notre génération, aucune génération avant la nôtre ne l'a connu. L'histoire n'est pas un recommencement, c'est ce que nous avons, ce niveau de développement, ce niveau d'intégration globale, tous ces instruments que nous avons en main font que nous vivons une expérience que personne avant nous n'a vécue. Donc nous n'avons pas de repères, nous avons véritablement besoin d'inventer un mode de fonctionnement pour le monde d'aujourd'hui, et nous avons besoin de l'inventer parce que c'est une question de survie. Parce que comme il est aujourd'hui, il y a un problème véritablement de survie. Et je me dis que peut-être que cette crise économique qui arrive aujourd'hui va jouer un peu le rôle de réveil matin, disant, mais bon, secouons-nous, il faut véritablement changer quelque chose dans le mode de fonctionnement du monde.
D'où la première phrase finalement de votre essai qui est « Nous sommes rentrés dans le 21e siècle sans boussole » parce qu'il y a également une idée très importante dans ce livre qui est très intéressante. C'est vrai qu'on entend souvent parler du choc des civilisations, la guerre des civilisations. Vous vous dites finalement c'est l'épuisement des civilisations. Nos civilisations se sont épuisées.
Oui, je dirais que le problème n'est pas tellement dans le diagnostic qui a été fait à un moment donné en disant nous sommes dans une ère de choc de civilisation. Le problème, c'est que on s'est installé d'une manière un peu insidieuse dans cette idée qu'il y a des humanités différentes qui ont chacune son histoire, qui finalement resteront différentes. Et c'est dangereux parce qu'à partir de là, on peut dire que chacune va avoir ses droits de l'homme, ses valeurs. Et de mon point de vue, ça ne peut pas être. Si le monde ne pourra pas fonctionner de cette manière, je pense qu'il y a des valeurs universelles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de droits de l'homme pour l'Europe et d'autres droits de l'homme pour le monde musulman ou l'Afrique ou la Chine ou ailleurs. Il y a des droits de l'homme, il y a des principes, des valeurs universelles que nous devons définir ensemble et respecter tous. Et puis, il doit y avoir une diversité culturelle. Et à ce moment-là, il faut avoir la diversité culturelle la plus vaste et la protéger et éviter de l'uniformisation. Et c'est tout cela, c'est la gestion du monde d'aujourd'hui. Parce que on peut avoir demain un monde où les valeurs universelles sont communes. Oui, je dirais que le problème n'est pas tellement dans le diagnostic qui a été fait à un moment donné en disant nous sommes dans une ère de choc de civilisation. Le problème, c'est qu'on s'est installé d'une manière un peu insidieuse dans cette idée qu'il y a des humanités différentes, qui ont chacune son histoire, qui finalement resteront différentes. Et c'est dangereux parce qu'à partir de là, on peut dire que chacune va avoir ses droits de l'homme, ses valeurs. Et de mon point de vue, ça ne peut pas être. Si le monde ne pourra pas fonctionner de cette manière, je pense qu'il y a des valeurs universelles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de droits de l'homme pour l'Europe et d'autres droits de l'homme pour le monde musulman ou l'Afrique ou la Chine ou ailleurs. Il y a des droits de l'homme, il y a des principes, des valeurs universelles que nous devons définir ensemble et respecter tous. Et puis, il doit y avoir une diversité culturelle. Et à ce moment-là, il faut avoir la diversité culturelle la plus vaste et la protéger et éviter de l'uniformisation. Et c'est tout cela, c'est la gestion du monde d'aujourd'hui. Parce que on peut avoir demain un monde où les valeurs universelles sont communes et où il y a une véritable diversité culturelle. On peut aussi avoir l'inverse. C'est-à-dire, on peut avoir aussi un monde où chacun est porteur de ses propres valeurs, comme si nous étions des humanités séparées, mais finalement, nous mangeons tous la même bouillie culturelle, nous avons les mêmes séries qui vont se décliner dans toutes les langues, et que tout le monde va regarder. Je pense que c'est l'inverse. Et si on reste sur la pente actuelle, c'est ce que nous aurons. C'est-à-dire une uniformisation culturelle et une ségrégation au niveau des valeurs. Il faudrait l'inverse. Il faudrait une universalité au niveau des valeurs et la plus grande diversité culturelle.
C'est pour ça que finalement, ce que vous préconisez, même si pour certains ça paraît utopique, mais souvent le monde change grâce aux utopies, c'est une échelle de valeurs basée sur la culture et l'enseignement. C'est votre chemin que vous aimeriez, sur lequel nous emmener.
Ça paraît utopique, mais en réalité, je crois que c'est la seule voie. J'ai parlé tout à l'heure du mode de consommation. Bon. Il faut pouvoir sortir de l'impasse, de ce dilemme. On ne peut pas tous consommer comme consomment aujourd'hui les nations les plus riches. On ne peut empêcher personne de vouloir entrer dans cette société de consommation. En plus, nous vivons tous, fort heureusement, grâce au progrès de la médecine, de plus en plus longtemps et mieux. et on peut espérer que ça va continuer et s'améliorer encore. Par quoi va-t-on remplir les vies ? Ces dizaines d'années de plus que nous avons, ces dizaines d'années de loisirs aussi que nous avons. Et je pense que la seule manière, c'est de passer, non pas complètement de la consommation matérielle à un autre type de consommation, mais de réduire la part de consommation matérielle et miser beaucoup plus sur l'épanouissement de la personne humaine, sur les satisfactions qui ne procèdent pas de la consommation, c'est-à-dire principalement, mais pas uniquement, mais principalement la culture, l'acquisition de la connaissance est une des voies essentielles qui permettent à tous d'avoir des satisfactions intenses sans épuiser la planète, sans peser sur l'avenir de la planète. Et donc, on a besoin d'aller beaucoup plus dans cette direction. Je pense que c'est essentiel. Et puis, je place effectivement la culture au centre de ce que j'espère être la nouvelle échelle de valeur, parce que, pour une autre raison aussi, c'est que je crois que nous vivons de plus en plus mélangés, des gens qui viennent de toutes les origines, et finalement, nous ne nous connaissons pas suffisamment. Je pense que nous avons besoin de nous connaître beaucoup plus en profondeur, de connaître les langues des autres, les cultures des autres, la littérature des autres. Je pense qu'on a besoin véritablement de connaître en profondeur et non plus superficiellement et à travers des préjugés et des idées reçues. Et là encore, je pense que ce soit pour cela ou pour la question de la consommation, je pense que la culture est une voie essentielle pour le salut.
Et c'est un univers inépuisable. Alors, dans le même ordre d'idées, puisque la diversité fait partie de notre vie au quotidien, c'est pour ça que vous préférez également le mot pluralité au mot communauté également. Pluralité, c'est plus optimiste.
En fait, à un moment donné dans le livre, j'utilise le terme de pluralisme dans un sens positif et le terme de communautarisme dans un sens plutôt négatif. Et je pense que quelqu'un qui vient du Liban sait où peut mener le communautarisme. Je pense que on a besoin dans un pays de sentir une appartenance profonde au pays qui va bien au-delà des appartenances communautaires. Ça, c'est mon expérience du Liban. Et c'est vrai que c'est vrai. Au-delà du Liban, je pense que nous sommes tous embarqués dans la même aventure humaine. De plus en plus, toutes les questions qui nous concernent se posent au niveau global, au niveau de l'humanité entière. C'est vrai que l'humanité est diverse, et il faut qu'elle reste diverse, et en même temps, il faut qu'il y ait au-delà de la diversité le sentiment d'appartenance commune. Et c'est ça, et c'est là où je dis que les mentalités ne suivent pas encore. Je crois que nous sommes dans un très grand degré d'intégration, nos destins sont imbriqués, mais les mentalités ne suivent pas assez. Nous avons besoin d'accélérer l'évolution des mentalités pour éprouver une appartenance, par exemple, beaucoup plus forte à l'aventure humaine, pour éprouver, pour prendre l'exemple de l'Europe, une appartenance beaucoup plus forte à l'Europe. Et je pense que On va assez lentement dans cette direction.
Alors on va lentement du côté humaniste, du côté de la morale, alors que finalement on vit une société où tout est instantané. C'est ça qui a changé également par le passé, où les choses prenaient du temps à s'imposer, les progrès, les innovations. Aujourd'hui, elles n'ont même plus le temps de s'imposer grâce malgré les nouvelles technologies. Finalement, dans ce livre, vous nous apparaissez comme un veilleur de nuit dans un jardin au lendemain d'une tempête. Et par rapport à la diversité, vous dites également, il n'y a plus d'étrangers en ce siècle, il n'y a plus que des compagnons de voyage. Et c'est vrai que quand on vous lit, quand on fait des voyages à travers les mots ou les différences, finalement, on se rend compte qu'on dit peut-être la même chose, malgré qu'on le dise de façon différente. Je vais prendre deux exemples qu'il y a dans votre livre. À un moment donné, vous citez le prophète, l'encre du savant vaut mieux que le sang du martyr. Puis vous citez après un extrait du Talmud, le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient. Finalement, c'est ça qui est étonnant. Aujourd'hui, on a tous les moyens de prendre du recul, on a tous les moyens de réfléchir grâce à cet apport matérialiste ou des nouvelles technologies, et on ne le fait pas. C'est peut-être le plus grand paradoxe, justement, du monde d'aujourd'hui. On a toutes les clés en main.
Et en même temps, c'est passionnant, parce que c'est le défi de notre génération. Je pense qu'aucune génération avant la nôtre n'a eu la chance, parce qu'il faut, c'est aussi la chance d'avoir à remodeler le monde. C'est la responsabilité de notre génération, et c'est à la fois une tâche lourde, mais en même temps une tâche fascinante. Et je pense qu'il faut s'y atteler. Et déjà, il faut prendre conscience de la gravité de ce qui arrive dans le monde aujourd'hui.
C'est d'autant plus fascinant que ce n'est pas le désespoir qu'il faut prôner, mais bien l'urgence. Parce que finalement,
je pense que le désespoir ne mène à rien. Je pense qu'il faut... Il faut être inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais il faut, à partir de là, se dire, mais quelle est la solution? Il faut toujours se poser la question, quelle est la solution? Nous avons une planète, nous ne pourrons pas la quitter si ça va mal. Bon, beaucoup d'entre nous, dont moi-même, ont quitté un jour un pays parce que ça allait mal, et ils sont allés dans un autre pays, mais la planète, si ça va mal, on ne peut pas la quitter pour aller sur une autre. Donc il faut bien la rendre habitable, la rendre accueillante, c'est finalement notre première patrie.
Voilà, c'est le début, sortir de la préhistoire finalement de notre humanité, grâce à vous, Amine Malouf, puisque vos livres sont de véritables lumières. J'ai beaucoup aimé votre réflexion comme vos livres précédents. Je voudrais vous remercier d'être présent parmi nous, de faire de vos livres des véritables leviers pour nous. Alors moi, je vais arrêter de poser des questions, parce que je suis sûr que beaucoup qui sont présents parmi nous aujourd'hui ont envie de vous poser leurs questions. Donc je vais me transformer en homme volant pour venir vers vous avec le micro, afin que tout le monde puisse entendre vos questions. Comme ça, le débat pourra être le plus intéressant. Voilà, alors on va commencer avec la première main qui s'est levée. Merci, voilà.
D'abord, merci, monsieur Malouf. J'ai une question concernant un chapitre de votre livre où vous semblez dire un problème concernant l'islam est un problème organisationnel. À l'islam, il manque un Vatican. Êtes-vous sûr que cela garantirait un avenir meilleur? Parce que je viens du pays qui a l'honneur les somptueuses habitudes des papes, surtout le présent, l'actuel, qui n'apprécie pas la science, puisque au lieu d'utiliser la numérotation arabe, il a préféré la latine, donc il a Decimus Est aujourd'hui. Et tout ça. Mais êtes-vous sûr que, vous savez, il y a toujours des caves au Vatican, et elles gardent des secrets qui sont immondes?
Non, vous savez, moi je suis très précis dans mes formulations, donc ce que je dis est formulé d'une autre manière. Ce que je pense, c'est que en Occident, la rivalité entre les papes et les empereurs a donné la possibilité à la société civile de prendre un certain degré de liberté. Non parce que les empereurs ou les papes voulaient lui octroyer plus de liberté, mais parce que cette rivalité a permis un espace de liberté. J'ajouterai que c'est le fruit de longues discussions avec des amis qui sont historiens de l'Europe. Et c'est vrai que dans le monde musulman, il y avait une rivalité similaire entre les califes et les sultans, souvent aux mêmes époques. Sauf que dans le monde musulman, les sultans ont pris le dessus sur les califes. Et en apparence, c'était l'affaiblissement du rôle du religieux. Mais en réalité, le diagnostic que l'on fait un peu rapidement par rapport à la relation dans le monde musulman entre le politique et le religieux est souvent erroné. Le problème dans le monde musulman n'est pas que le religieux a pris le dessus sur le politique, c'est exactement l'inverse. C'est que les politiques ont utilisé le religieux, que les autorités religieuses étaient souvent nommées par les autorités politiques, Ce qui fait qu'elle n'avait pas suffisamment d'autonomie pour tenir tête. Par exemple, dans l'Empire ottoman, s'il y avait une autorité religieuse capable de tenir tête au sultan, ça aurait beaucoup réduit l'arbitraire du pouvoir politique. Et donc, le rôle joué par les papes a été, je dirais mécaniquement, un rôle qui a permis l'émergence de cet espace de liberté. C'est un long débat auquel je consacre quelques chapitres, et c'est le fruit de longues discussions avec les historiens, mais bon, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui parce que ce serait long à expliquer.
Une question concernant le diagnostic que vous avez posé tout à l'heure sur les problèmes de la planète. Vous avez dit qu'il faut qu'on cherche la solution. Mais peut-être avant de chercher la solution, il faut s'accorder sur le diagnostic. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt les symptômes plutôt que vraiment un diagnostic sérieux. Prenons la crise actuellement. On a déjà connu des crises dans le passé, comme par exemple les 1930, et la réponse était le relancement de l'économie par la guerre. Cette fois-ci, on s'était dit, espérons qu'on ne retombe pas dans le même schéma. On entend heureusement des voix qui essaient de relancer l'économie par l'écologie, investissant dans les énergies du futur. Mais bizarrement, ils font ça au rythme de la course. C'est-à-dire, soyons les premiers dans la course aux solutions écologiques. On est toujours dans le schéma où, en tant qu'humain, on se fait la course les uns aux autres, pour occuper le marché d'abord. Et paraît-il, ces solutions-là sont toujours basées sur l'idée de l'offre de la demande. C'est le marché qui doit décider. On ne consomme pas ce qui est logique ou raisonnable de consommer, mais on consomme ce que le marché peut écouler. Y a-t-il pas là un premier point de diagnostic, de dire si on cherche le problème, il faut plutôt le chercher dans un mode économique, un mode social dans lequel on est mis en concurrence les uns face aux autres, plutôt que d'un mode plus solidaire?
Je pense effectivement que c'est trop tôt maintenant pour trouver des solutions. Je pense que les G20 qui se réunissent en disant on va faire un nouveau système, je pense que même pour eux, même s'ils ont toutes les données en main, je pense que même pour eux, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir élaborer un nouveau système. On est quand même au début d'une crise, et soyons modestes, nous ne savons pas quelle sera l'ampleur de cette crise, nous ne savons pas où elle va mener. Nous sommes au début de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui est arrivé en 1929, mais qui est quand même déjà assez différent. Et on peut espérer que ça ne mènera pas à une guerre, on peut espérer que ça ne mènera pas à tous les bouleversements qu'il y a eu, mais on n'en sait rien, en réalité. Mais c'est vrai, ce que vous dites à propos de la relance par l'énergie verte, par exemple. C'est une bonne idée, et à la longue, il faut y penser. Simplement, quand, par exemple, le président Obama dit il faut baser l'économie sur... Il y a un problème de délai. C'est-à-dire, lui, il est élu pour 4 ans. Avec un peu de chance, il aura 8 ans. Pour baser l'économie sur quelque chose de nouveau, il faut une génération. On n'est pas dans les mêmes délais de temps. Changer les bases de l'économie, c'est quelque chose d'extrêmement long. Et donc, on est encore au stade où on lance simplement des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Mais bon, soyons optimistes, c'est bien qu'il y ait des gens qui aujourd'hui sont capables de dire... Essayons d'aller dans cette voie ou dans cette voie. C'est une bonne chose. Enfin, je suis content qu'il y ait des dirigeants qui réfléchissent, mais on est vraiment au début, et je pense que nous avons tous besoin de réfléchir. On n'a même pas encore fait le diagnostic de la crise. On est vraiment au tout début.
Voilà, on est sur le début du chemin. Alors moi, je vais vous inviter à... Vous avez une question? Et puis je vous inviterai peut-être à venir sur le chemin de façon plus intime, de rencontrer Hamid Malouf en vous... dirigeant vers lui ensuite, si vous désirez des dédicaces.
Merci. Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes plus ou moins optimiste après ce livre ?
J'ai l'habitude de dire je suis un optimiste inquiet. Un peu plus inquiet peut-être, mais je ne cède pas au désespoir. Je pense que véritablement nous sommes à un moment où il faut repenser beaucoup de choses dans ce monde. Et je pense que nous avons les moyens de changer beaucoup de choses. La science, la technologie donne les moyens d'agir, nous donne les moyens de réfléchir ensemble, de communiquer, de nous exprimer. Nous avons des moyens extraordinaires. Nous pouvons, n'importe qui parmi nous peut aller sur Internet et diffuser ses idées. C'est le moment de réfléchir et de bâtir quelque chose. Donc, je sortirai un peu de cette dualité entre optimisme et pessimisme. Je dis, la situation est extrêmement inquiétante, probablement plus que je ne le dis encore. Et c'est le moment de véritablement opérer un sursaut pour changer la direction que le monde est en train de prendre et éviter le pire.
Voilà, donc merci à vous tous d'avoir été présents. Surtout merci à Amin Malouf de nous faire le plaisir.
Merci à vous tous. Merci bien.
Voilà.
Merci Pascal.
Et je vous invite donc à venir le rencontrer de façon plus individuelle. Je vais être un peu abusé dans mon petit pouvoir qui est le mien, c'est d'essayer de faire une file de ce côté-là afin de ne pas étouffer notre ami, s'il vous plaît. Merci.